les frères et les sœurs en bonne santé. Quelle grâce de pouvoir partager sa parole. Quelle grâce de comprendre les réalités spirituelles. Nous sommes tous conscients de la bénédiction que nous avons à partir du moment où le sang de Jésus-Christ nous a purifiés. Et j'ai médité cette semaine, sachant que nous allions terminer l'année à la longue veille hier soir, la recommencer dans les quarts d'heure qui suivaient, ce matin de très très bonne heure, et nous retrouver sous le regard du Seigneur dans cette véritable joie et en même temps dans cette véritable responsabilité qui est la mienne de vous apporter le conseil de Dieu. Et j'ai pensé à beaucoup de choses. Bien sûr, les sujets ne manquent pas pour commencer une année avec les textes bibliques que nous avons. Et hier, cette semaine j'ai médité, mais hier j'entendais un journaliste qui présentait les informations, bien sûr, et qui expliquait que dans 2012, le monde allait s'appliquer à la recherche du bonheur. Voilà, et je me suis pensé, ils vont chercher longtemps. Et je le disais sérieusement, ils vont chercher longtemps. Ils vont chercher le bonheur sans Dieu, c'est une inéquation, c'est impossible. Et j'ai pensé à ces textes de l'Apocalypse, parce que je pense que comme vous, nous pensons souvent au jour où nous serons avec le Seigneur. Nous y pensons. Et si vous avez lu l'Apocalypse, vous avez peut-être observé qu'il y a 7 textes où il nous est parlé du bonheur. 7. Et c'est le seul livre d'ailleurs, par exemple, Apocalypse chapitre 1er verset 3, où il nous est dit qu'on ne peut être heureux en lisant le livre de la révélation. C'est quelque chose, beaucoup de gens ne lisent pas l'Apocalypse parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas les symboles, mais nous ne nous rendons pas compte que comprendre l'Apocalypse, c'est une véritable bénédiction. Comprendre ce que Jésus veut, ce qu'il va faire, ce qu'il a préparé, est une bénédiction. Alors on va lire ces 7 textes. Sans les commenter, bien sûr, mais lisons-les quand même. Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » S'il y a 2000 ans, c'était proche, laissez-moi vous dire. Vous savez, cette expression du Seigneur Jésus qui vient bientôt, parce que pour lui, 2000 ans sont comme 2 jours. C'est déjà pas mal. Heureux celui qui lit, celui qui entend et celui qui garde. Apocalypse 14, verset 13. Voilà le bonheur. Vous savez, les gens les plus heureux, aujourd'hui, 1er janvier 2012, et ils sont dans les églises du Seigneur Jésus-Christ. J'en suis convaincu. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Elle n'est pas belle cette parole, hein? On pourrait en dire des choses sur ce verset. 16, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Oui, heureux celui qui veille. Ce matin, on veille. La façon de veiller que de se retrouver à la maison du Seigneur et de s'appliquer à travailler à son salut. C'est une façon de veiller. Apocalypse 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Mais quand vous comprenez pourquoi ? Parce que ceux qui auront part à la seconde résurrection, eux, ils seront malheureux, laissez-moi vous le dire. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Alléluia, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt la Nouvelle Jérusalem. Hein? Alors, j'en ai oublié un, entre autres, c'est 19, parce que c'est le chapitre qui nous intéresse. Quand on voit ce qui se passe avant ce texte qu'on va lire, ce qui se passe après, je comprends pourquoi Jean, hier on en parlait à table en famille, vous savez que Jean, quand il a eu la révélation des noces de l'agneau, quand il a vu l'ange, il s'est prosterné devant un ange pour l'adorer. Et l'ange lui a dit, non, 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 ne fais pas ça, je suis ton compagnon de service. Vous vous rendez compte que les anges sont nos compagnons de service. Et voilà, il était tellement bouleversé, tellement peut-être même perturbé par ce que l'on va vivre quand on sera avec Dieu, qu'il y a eu cette situation. Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Vous savez que dans la Bible, il y a une petite partie du menu qui est présentée? Est-ce que vous le savez? Oui? Oh, c'est pas le moment, hein? On verra plus tard. Son épouse s'est préparée. Ça, c'est important. Le menu, si on ne le sait pas, ce n'est pas grave. Mais que l'épouse soit prête, ça, c'est important. Son église s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. C'est sûr qu'on le sait, que toute la parole est la véritable parole de Dieu. Mais quand c'est indiqué, c'est pour qu'on appuie bien sur cette vérité. Oui, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Quel programme? Vous en avez un programme pour 2012? On en présente des programmes en ce moment à la télévision, hein? Et des promesses. Vous savez très bien que ça ne peut pas marcher. Le seul programme qui marchera, c'est le programme qui sera présenté au millénium. Vous savez que ce programme-là, il tiendra debout? Vous le savez? Parce que pendant le millénium, le grand président qui va diriger le monde, je peux vous dire que lui tiendra chacune de ses promesses. Quel programme devant nous? Quand est-ce que Jésus va-t-il revenir? Quand est-ce que Jésus va-t-il nous prendre? Ou individuellement, ou tous ensemble? Ce qui est important, c'est que l'Église soit préparée. Hier, par curiosité, j'étais sur Internet et j'ai été chercher des menus chics dans les plus grands hôtels et restaurants de France. Alors, si vous voulez m'inviter, réfléchissez-y à deux fois. Des sommes astronomiques, c'est irréel. 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 Et j'ai regardé le prix du caviar. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait devant Dieu. Pour que vous compreniez certaines choses, parce qu'à la suite, vous allez mieux comprendre. Oui, il vaut mieux, comme dit le frère, une toute petite pincée. 12 800 euros le kilo, le meilleur caviar. Les truffes, qui c'est qui connaît le prix des truffes? 1 200 euros le kilo. Et je regardais, mais vraiment, par rapport à ce que je vais vous dire, de manière consciencieuse, ce que les hommes sont capables de proposer pour essayer d'apporter un peu de bonheur. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Alors, on n'a pas jugé les gens qui font ça, ce n'est pas du tout l'intention. Mais ils ne pourront pas être heureux avec ça. Ce n'est pas possible. En tous les cas, je dis ces choses parce que nous, dans la Bible, nous savons ce que l'homme doit faire pour être heureux. Nous le savons, nous venons de le lire. Si à 7 reprises, dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus indique ce qui permet à un homme d'être heureux, c'est exactement ce que nous pouvons vivre et faire, parce qu'on l'a vu, vous voyez, le premier heureux, celui qui lit, mais celui qui écoute, et celui qui garde. C'est pas parce qu'on écoute une prédication qu'on est heureux. On est heureux quand on lit, quand on écoute et quand on garde, c'est-à-dire qu'on obéit à ce qui est enseigné. Oui, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Qu'est-ce que c'est pour vous les noces de l'agneau? C'est proche, c'est lointain, c'est virtuel, c'est très très loin? Chacun a sa réponse sûrement. Qu'est-ce que c'est pour vous les noces de l'agneau? C'est pour bientôt? Bien sûr, vous avez quelques... Oui, c'est pour bientôt. Jésus a dit il y a 2000 ans à l'apôtre Jean, je viens bientôt. Comme je l'ai dit à l'introduction, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt dans le calendrier de Dieu où nous partirons et heureux ceux qui auront part au festin des noces de l'agneau parce que ce qui se passera sur la terre juste après ne fait pas rire du tout. Quand on voit les préparatifs de la bataille d'Armageddon, je peux vous dire, ça ne fait pas rire du tout quand on voit ce qui va se passer. Oui, l'Église doit se préparer. L'Église, elle doit être couverte, toujours couverte. Par le sang du Seigneur, cette Église, elle doit se maintenir dans l'amour de Dieu. Je reprends des textes bibliques. Elle doit travailler à son salut, avec crainte et tremblement. C'est important de travailler à son salut. Est-ce que vous y travaillez à votre salut? Eh oui, quand on écoute la parole de Dieu avec sérieux, quand on la lit avec sérieux, quand on prie consciencieusement, quand on s'applique, eh bien on peut travailler à son salut avec crainte et tremblement. C'est demandé. Une église qui est prête, c'est une église qui recherche la sanctification. Car sans la sanctification, Nul ne verra le Seigneur. Une église qui est prête, c'est une église qui court, comme dit Paul, pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc c'est une église qui continue à servir. Servirez-vous le Seigneur en 2012 ? Ou vous découragerez-vous, comme ce roi dans l'Ancien Testament, il a servi Dieu pendant 36 ans. Et la 37e année, il a abandonné Dieu. Pourquoi ? C'est pas écrit, on ne le sait pas. Voilà. Combien il y en a comme ça ? Ils ont servi Dieu 10 ans, 20 ans, et puis tout d'un coup, ils abandonnent le Seigneur. Bien sûr qu'il y a des explications. Est-ce que vous êtes prêts à courir pour remporter le prix de la vocation céleste ? Est-ce que vous voulez continuer à le servir ? C'est important que tous ensemble on le serve. Peut-être que vous venez pour la première fois ce matin. C'est important que vous sachiez qu'il y a des églises où on prêche la croix pour que vous puissiez obtenir le salut de votre âme. Oui, une église, elle doit continuer à se préparer, comme on l'a lu, on doit veiller à ne pas se souiller, à être toujours vêtu de vêtements blancs, car Dieu viendra chercher une église pure, sans tache, sainte et irréprochable. Les noces de l'agneau. Quand je lisais ce texte hier, bien sûr que j'ai médité dans la semaine, mais je vous avoue que je ne savais pas exactement ce que j'allais apporter. Et les noces de l'agneau, il n'est pas dit les noces de Jésus-Christ, les noces de l'agneau. Parce que les noces de l'agneau nous ramènent à cette grande bénédiction de l'homme, de Dieu sur la terre, que l'agneau de Dieu, c'est celui qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. C'est important de rappeler d'une manière très sérieuse le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que nous nous rendons compte que si nous avons droit à entrer dans la cité céleste, si nous aurons droit à vivre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour l'éternité, si nous avons le droit d'être en paix tout le long de cette année sur la terre et ainsi de suite, tout cela, c'est grâce à la croix. Amen. C'est pour ça que je dis souvent, meneur de chant, prenez des cantiques sur la croix. Car si nous sommes épargnés de la colère, si nous pourrons éviter le châtiment du péché et si nous avons reçu cette vie, c'est grâce à la croix. Le Seigneur Jésus, on l'a chanté, le Seigneur Jésus était Dieu dans les cieux. C'est écrit, on l'a chanté. Il était l'éternel Dieu. Hein. Vous le croyez, ça hein. Il était dans une gloire que même les anges ne s'en détournent même pas, jamais. Tellement, ça doit être quelque chose de merveilleux. Il était saint, parfaitement saint. Il n'avait pas besoin de mourir. Il ne pouvait pas mourir, puisqu'il est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que Dieu peut mourir ? Mais non, Dieu ne peut pas mourir, il ne pouvait pas mourir. Mais, à cause de sa compassion, à cause de son amour pour chacun de vous, il est venu sur la terre. Est-ce que nous nous rendons compte ? Noël, pour beaucoup de gens, je peux vous dire que c'est déjà oublié. Il y a longtemps que c'est oublié. Est-ce que nous nous rendons compte que le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui a tout créé, tout, absolument tout créé, hier, quand je préparais ma prédication, il y avait un tout petit insecte qui essayait de lire ma prédication, sûrement. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Et je disais, Seigneur, tu vois, même ce petit insecte, c'est toi qui l'as créé. Vous savez, il faut le faire. Essayez de faire un insecte avec un cerveau et tout, vous allez voir. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, la création d'un insecte? Réfléchissez un instant. Rien qu'un insecte. La puissance de Dieu pour créer un seul petit intègre avec tout ce qu'il faut dans son cerveau pour la reproduction, pour tout, pour le repérage, etc. C'est extraordinaire, hein, tout ce que Dieu... Et pourtant, ce Dieu créateur, il a pris la forme humaine pour venir à notre place mourir. Comment ne pas commencer cette année sans le remercier pour son œuvre au calvaire ? Il est mort, le Dieu qui ne pouvait pas mourir. Il a pris la forme humaine pour mourir à notre place, pour prendre la punition à notre place, pour porter nos souffrances, que le nom du Seigneur soit béni. On appelle ça la substitution. Il a pris notre place pour nous donner le pardon et la gloire de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a voulu cela. Est-ce que vous en êtes conscient ce matin ? Est-ce que vous êtes toujours conscient ? Est-ce que ça vous touche toujours ? Est-ce que c'est comme au premier jour quand je... Quand je réalise, Seigneur, ton œuvre au calvaire, je suis merveilleux. Je suis émerveillé. Il ne faut pas oublier ça. On l'a chanté. N'oubliez pas. Il ne faut pas oublier certaines choses. Il ne faut pas oublier que ce sont nos péchés qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Alors on fait une petite rétrospective de son œuvre ce matin. Tout simplement. Voilà ce que j'ai eu à cœur de vous présenter. Pour commencer, regardez comment Jésus est né. N'oubliez pas, je le répète, que c'est le Seigneur des Seigneurs. Il est né dans une étable. On le sait. On le sait, tout le monde le sait. Même les inconvertis savent tous que Jésus-Christ est né dans une étable à Bethléem. Tout le monde le sait. Mais quand même, ça ne vaut-il pas la peine de le rappeler? Vous vous rendez compte comment Dieu est venu sur la terre? Il aurait pu naître dans un palais, non? Il aurait pu naître, je ne sais pas moi, dans la maison de Nicodème, dans la maison d'hommes religieux, oui ou non? Il est né dans une étable. Son lit, vous savez ce que c'était son lit? Une mangeoire. Mais il faut comprendre. Je sais que vous avez dit, mais je le sais. Mais est-ce que nous le savons avec notre cœur, avec notre esprit, qu'il a juste été emmailloté dans un linge? Il n'a pas eu de vêtements de luxe. Il a été juste emmailloté dans un linge et placé dans une mangeoire. Je le répète, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Mais pourquoi? Pourquoi il l'a voulu ainsi? Alors c'est vrai qu'il est stipulé qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. J'ai bien peur, mes frères et sœurs, qu'il n'y ait pas beaucoup de place aujourd'hui pour Jésus dans beaucoup de cœurs. Le fait que beaucoup se refroidissent, que l'iniquité grandisse, que les vierges folles ne réalisent pas et qu'elles sont folles parce qu'elles ne calculent pas qu'il leur faut davantage d'huile dans leurs lampes, nous prouve qu'il y a de moins en moins de place pour Jésus dans les églises. Vous avez dit, mais si, monsieur Gaulle. Non, non. Pour la tradition, oui. Pour la religion, oui. Pour se divertir, oui. Je parle que Jésus est toute la place dans nos cœurs, toute la place dans nos vies. Et oui, il est venu de cette façon. Ça vous montre en vérité une chose, l'humilité de Dieu, bon, ça on peut en parler, mais ça vous montre aussi quel accueil on lui a fait. C'est ça en vérité. Quel accueil. Pas de place pour lui. Pourquoi il a accepté? Est-ce qu'il le savait qu'il allait être accueilli comme ça? Bien sûr, parce qu'il vous aime. Pourquoi Jésus a-t-il accepté déjà au commencement de venir dans cette condition? Parce qu'il nous aime. Je comprends pourquoi la Bible dit que les hommes sont inexcusables. D'ailleurs, ils le sont rien qu'en regardant la création. C'est Paul aux Romains qui dit que quand l'homme considère toute la création, il est inexcusable. Alors devant l'œuvre de Jésus-Christ au calvaire, à combien plus forte raison, il est encore plus, encore moins excusable. Oui, par amour pour vous et par amour pour moi. C'est pour ça que j'ai estimé que ça serait une bonne chose de prendre la Sainte Cène après cette prédication, parce que le pain et le vin, ne l'oublions pas, nous rappellent vraiment son œuvre sur le bois de la croix. Toute sa vie sur la terre. Il y a des gens qui disent, oui, il y a la croix, mais toute sa vie, il l'a vécu à l'ombre de la croix. Il savait pourquoi il était venu. Croyez-moi, il avait calculé le coût que ça allait lui payer. Quand vous connaissez les textes de l'Ancien Testament, croyez-moi qu'il avait calculé la dépense. Lui qui nous dit si on veut le suivre, il faut calculer la dépense. Croyez-moi que lui, il avait calculé la dépense avant de venir. Il n'a pas été pris de court ou pris au dépourvu. Il savait très bien ce qui allait lui arriver. Et ce matin, on ne va parler que des souffrances physiques du Seigneur. On ne va pas parler des souffrances spirituelles, des souffrances de son âme, mais déjà que la façon dont il a été accueilli. Est-ce que nous nous rendons vraiment compte? Quand on le voit, on a chanté tout à l'heure que Jésus a pleuré, mais il a pleuré sur Jérusalem. Vous croyez que c'était la volonté de Dieu qu'il pleure sur Jérusalem? Il a pleuré sur Jérusalem. Quel drame! Et je crois humblement qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus, de la même manière, pourrait pleurer devant beaucoup d'églises. Devant, parce que Jérusalem représente le peuple de Dieu. Et je crois humblement, même si nous nous réjouissons pour le salut de notre âme, que dans bien des endroits, à cause de la façon dont on continue à le traiter, dont on continue à l'accueillir, je pense que Jésus pourrait pleurer parce que le peuple de Dieu a été indifférent. Pour la bénédiction, ça il l'a voulu. Mais ils n'ont pas voulu se repentir. Et vous savez ce que ça leur a coûté. Il pleure le Seigneur lorsqu'il voit les chrétiens qui sont indifférents. Lorsqu'ils voient les chrétiens rebelles, est-ce qu'il y en a des chrétiens rebelles? Ben oui, ils entendent la parole de Dieu, mais non, ils n'en veulent pas. Ils entendent que combien c'est important d'aimer son prochain, mais non, ce qui est important c'est moi, c'est toujours moi, et moi, et surtout moi. Mais l'amour pour les autres, l'évangélisation, comme je disais en introduction, continue à le servir, j'ai pas le temps. C'est ça l'indifférence, c'est ça être rebelle. Le Seigneur Jésus a même dit que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais que lui n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu, faire en sorte d'avoir tout ce qu'il fallait? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi, vous croyez qu'il a dit ça pour se plaindre? Est-ce que Jésus a dit ça pour se faire plaindre? Non. Il a dit ça pour une fois de plus lui montrer comment les hommes l'accueillaient. Ils avaient besoin de lui. Mais ils ne voulaient pas s'approcher de lui, juste pour le plaisir de s'approcher de lui. Vous savez, c'est une chose de venir à l'église pour demander. Ça n'est une autre de venir pour le louer. Je ne sais pas si vous faites la différence. Ça n'est une autre de venir pour le louer. Et ça n'est une autre de venir pour l'adorer. Parce que quand on l'adore, tout converge vers lui. Parce que même quand on le loue pour quoi? Pour ce qu'il a fait dans notre vie. On le loue pour le salut de notre âme. On le loue pour le pardon de nos péchés. En fin de compte, c'est nous qui sommes toujours bénéficiaires. Même dans la louange, c'est nous qui sommes au bénéfice. Tandis que dans l'adoration, il n'y a que lui qui compte. Seigneur, je t'adore parce que tu es Dieu. Point. Ça, c'est pourquoi Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et beaucoup de chrétiens n'adorent pas. Mais combien me l'ont eu dit? Avec beaucoup de peine. Mais non, moi on prie, on fait que prier, on a juste le temps de demander pour nous. Pensez donc adorer, mais on n'a pas le temps. Alors que c'est quand même le premier commandement. Parce que je suis persuadé que toutes les bénédictions sont contenues dans l'obéissance à ce premier commandement. Parce qu'un adorateur, je pense qu'il va quand même avoir la faveur de Dieu. Voyez? Pourquoi Jésus a pleuré? Jésus ne se plaignait pas. Pourquoi Jésus a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, et le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête? Parce que il voulait expliquer comment on l'avait traité, comment on l'avait accueilli. Mais c'est pareil, je vous dis, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Et nous devons nous interroger, comment nous approchons-nous de Dieu? Oui, il s'est humilié. Il s'est humilié par amour. Tout est résumé dans l'amour de Dieu pour tout le monde, mais pour toi, pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime individuellement? Est-ce que ça vous touche, ça? Parce que quand on dit, bon, j'aime tout le monde. Bon, ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous aimez tout le monde? Non, parce que vous comprenez ce que je veux dire. On peut dire, j'aime tout le monde. Mais aimer individuellement chaque personne, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'important? Aimer individuellement, c'est ça. Et c'est pour ça que Jésus a accepté de venir dans ces conditions. Est-ce que Jésus a enduré la soif?
Oui.
La faim?
Oui.
La fatigue?
Oui.
Ben ouais. Ça prouve bien qu'il s'est fait homme. Parce qu'en tant que Dieu, il ne peut pas se fatiguer, il ne peut pas avoir soif, il ne peut pas avoir faim. Le Dieu est grand, il est tout puissant. Mais c'est bien la preuve que Jésus s'est fait homme. Il y a des gens qui disent, oui, Jésus c'était Dieu, donc il a pu le faire facilement. Non, il s'est fait homme, il avait nos limites et nos limitations comme chacun d'entre nous. Et nous devons nous poser la question, mais est-ce que ce matin je suis venu le cœur rempli de reconnaissance?
Amen.
Vous devez répondre à la question, vous devez vous répondre. Et dire, mais pourquoi je suis venu? Est-ce que mon cœur est rempli de reconnaissance? Est-ce que je suis toujours dans cet état d'esprit d'adorateur, d'adoratrice? Est-ce que je suis toujours dans cette reconnaissance pour tout, pour un verre d'eau, pour tous les bienfaits? Vous savez que c'est un bienfait? Tout est bienfait, tout est grâce. Ou est-ce que vous êtes rempli, je dis bien le mot rempli, d'indifférence? Eh ouais. Et vous qui ne vous êtes pas encore repenti, il y a parmi nous des gens qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, qui n'ont pas pris à cœur ces choses. Vous êtes là comme des spectateurs, mais vous devez vous repentir. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore accepté comme votre sauveur? C'est à vous de répondre, c'est pas personne d'autre sur la terre peut répondre à votre place. Pourquoi n'avez-vous pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur? Est-ce que vous êtes encore indifférent à tout ce qu'on est en train de partager? Au fait que le Dieu du ciel et de la terre ait quitté le ciel de gloire pour porter votre péché, le vôtre, pour que vous ne subissiez pas la condamnation? Pourquoi restez-vous indifférent à la prédication de la croix? Pourquoi continuez-vous depuis des mois, des années, à écouter, peut-être d'une manière intéressée, intellectuellement, ou autre, ou sentimentalement? Mais pourquoi votre cœur reste-t-il de marbre, alors que vous savez que vous avez besoin du sang de Jésus-Christ pour le salut de votre âme? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané? Vous avez apprécié le petit cœur qu'on vient de chanter? Hein? Rappelez-vous le jardin de Gethsémané. Vous savez que lorsque Pierre a renié Jésus, il se réchauffait avec des femmes, là, des hommes, vous savez. Donc il faisait froid. Oui ou non? Quand on se réchauffe auprès d'un feu en pleine nuit, c'est parce qu'il faisait froid. Et pourtant, à Gethsémané, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus qui sue des grumeaux de sang en agonie. Tout le monde vient de l'abandonner. Tous l'ont abandonné. Lui qui avait dit, venez à moi, vous tous. Tous. C'est écrit. Tous l'ont abandonné. Lorsqu'il réclame ses trois amis pour prier, ils se sont endormis. Ils se sont endormis. Il leur demande son soutien. Vous savez, quand on souffre, on a besoin d'être soutenu par les autres. Cet enseignement, il est là pour nous montrer la grandeur de Dieu. Mais il nous est dit qu'il a sué des grumeaux de sang. Et tous les spécialistes vous le diront, que lorsqu'on en arrive à ce stade, on va mourir. Et quand il est dit qu'il était triste à mourir, c'était pas de la poésie. Il était en train de mourir. Et s'il a demandé que cette coupe s'éloigne, c'était la coupe de la mort. Et je suis convaincu que puisqu'il est dit dans les Hébreux qu'il a été exaucé et sauvé de la mort à cause de sa piété, c'est bien qu'il ne demandait pas qu'une autre volonté. Moi, je n'ai jamais accepté le fait que dans le jardin de Gethsémané, Jésus n'ait pas voulu faire la volonté de Dieu. Je ne l'ai jamais accepté. Je l'ai lu dans tous les livres presque, où quand il dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Mais ce que Jésus voulait, c'est aller jusqu'au bout. Et il a été exaucé, il a été sauvé de la mort. Et il est mort, Jésus, il n'est pas mort, au fait. Et pourquoi il est dit qu'il a été sauvé de la mort? Parce que dans le jardin de Gethsémané, il a été sauvé de la mort. Parce qu'en suant des grumeaux de sang, il était en train de mourir. Et dans le jardin de Gethsémané. Et c'est pour ça qu'on peut que lui être reconnaissant. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le pain et le vin avec indifférence. Que tout à l'heure, nous le prenions avec cette immense reconnaissance. Que chaque fois que nous prenons le pain, que chaque fois que nous prenons le vin, notre cœur soit rempli d'un texte, de la parole de Dieu. Vous savez, je me suis fait piéger lorsque j'étais dans l'épreuve il y a 15 ans. Je prenais la Sainte Cène, je ne savais pas si j'aurais dû la prendre d'ailleurs. Fait bon. Et je prenais la Sainte Cène. Je ne sais pas. Et un jour, je dis, ça ne peut pas durer. Toutes les fois que tu prendras la Sainte Cène, tu t'imposeras un texte qui touche à l'agonie et à la mort de Jésus-Christ. Et je peux vous dire que ça change l'état d'esprit dans lequel on prend la Sainte Cène. Quand on, avec son cœur, on pense à un texte de la parole. Bien sûr qu'ici, on le fait consciencieusement. On nous donne chaque fois un texte biblique qui nous permet de faire ça facilement. Mais je m'inquiète quand je vois dans beaucoup d'assemblées quand même où il y a on prend la Sainte Cène une fois par mois maintenant. Je crois que c'est pas bon. Je pense qu'il faut le faire tous les dimanches. Vous croyez pas, mes frères et sœurs? Hein? C'est important, oui. Il faisait froid cette nuit-là. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, il faisait froid, très froid certainement, puisqu'on se réchauffait auprès d'un feu. Et pourtant, lui, il suait des grumeaux de sang. Vous croyez pas qu'il a dû nous aimer pour faire ça? Sérieusement, vous ne croyez pas que Jésus a dû nous aimer pour faire ces choses là, dans le jardin des Oliviers, abandonné de tous ses amis. Il est là. On aurait fait mieux, nous? On aurait fait mieux que Pierre, Jacques, Jean? Est-ce qu'on aurait fait mieux? Bien sûr que non. On fait tout ça pour nous montrer que c'était une œuvre tellement importante que c'était difficile d'aller jusque-là. Oui. Ensuite, on est venu l'arrêter. On est l'arrêté comme un brigand. Comme un brigand, comme on arrête un brigand, on l'a arrêté. N'oublions pas, il est le Fils de Dieu. On pourrait dire Dieu arrêté par les hommes. Si l'éternité des gens n'était pas en jeu, si ce sujet n'était pas important, ça serait presque comique. Dieu arrêté par les hommes. Mais il a accepté d'être arrêté. Et vous savez qu'à ce moment-là, quand Pierre a voulu prendre sa défense, et qu'il s'y est mal pris d'ailleurs, vous savez, quand on veut faire les choses avec ses propres forces, ça ne va pas bien loin. Vous savez qu'il avait la possibilité de demander au Père 12 légions d'anges, qui n'attendaient certainement que son regard pour intervenir. Et quand on voit dans le livre des Chroniques, des Rois et des Haïs, que lorsque Sanchérib a voulu décimer Israël, avec orgueil et arrogance, dans la nuit, Dieu a envoyé un ange, un seul, qui a décimé dans la nuit 185 000 Syriens. Ils sont tous morts, sauf le chef, qui s'est fait tuer par ses fils la nuit d'après. Un ange, 186 000 Syriens décimés dans la nuit. Et hier, quand je préparais cette prédication, 12 légions... Vous savez qu'une légion, c'est 6 000 hommes. Ça veut dire qu'il y avait 72 000 anges dans l'invisible, et si les 72 000 s'étaient mis au travail, laissez-moi vous dire que Jérusalem aurait été détruite en quelques minutes. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Est-ce que Jésus aurait pu regarder un ange et dire, ça suffit, allez-y. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Et oui, il est Dieu. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aimait. Vous ne le connaissiez pas, nous ne le connaissions pas, nous étions loin de naître à l'époque, mais déjà nous étions inscrits dans son cœur. C'est écrit. Lui qui avait l'autorité de demander à des anges qui sont, je vous assure, puissants, en force, c'est écrit dans la Bible, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Et après, comment, il savait comment, ce qui allait lui arriver ensuite, comment il a été traité par les autorités, quand on l'a envoyé chez Anne, le souverain sacrificateur, ce n'était pas celui qui était en exercice. Anne, je me suis tout le temps posé la question, pourquoi il avait un nom de femme? Enfin, on peut s'en douter. Et là, il a été frappé par un officier. Voilà. Alors qu'on l'envoie dans les autorités religieuses. Puis après, Anne l'envoie au sacrificateur en fonction, c'est-à-dire Caïphe. Et là, on va cracher sur lui. Est-ce qu'on vous a déjà craché dessus? On l'a giflé, on l'a frappé, on s'est moqué de lui, on l'a battu de coups de verge, on a même déchiré ses vêtements. Voilà comment les autorités religieuses l'ont traité. Je vous signale que les 12 légions d'anges n'étaient pas reparties. Est-ce qu'elles étaient toujours là disponibles? Et il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Vous comprenez qu'on ne peut pas prendre le baptême n'importe comment, on ne peut pas prendre la Sainte Seine n'importe comment. Après cela, on l'a amené chez, comment il s'appelle? Chez Pilate. Et là aussi, vous savez comment il a été méprisé. Comment il s'est moqué de lui. Lui qui l'attendait avec beaucoup de joie, parce qu'il y a longtemps qu'il voulait le rencontrer, pensant qu'il allait faire un miracle. Vous savez, c'est écrit. Il était content, il a eu une grande joie quand il a vu Jésus, pensant qu'il allait faire un miracle. Jésus ne lui a rien dit. Jésus ne fait pas des miracles pour faire des miracles. Si Hérode avait été intelligent, s'il lui avait dit, écoute, c'est pas moi le roi c'est toi. Et s'il avait dit à tout son staff, là, partez, je veux me retrouver seul avec Jésus, je voudrais m'occuper de mon salut, là, Jésus lui aurait répondu. On ne se moque pas de Dieu. Et si bien souvent Dieu ne nous a pas répondu, c'est parce qu'on s'est moqué de lui. Dans notre façon de vouloir certaines choses, oui, on ne demande pas les choses n'importe comment, comme on l'a très bien entendu dans le cantique ce matin, on les demande parce qu'elles correspondent à sa volonté. Il a été amené devant le conseil des anciens, là encore, il n'a enduré que de la violence et que du mépris. Combien ça a dû être difficile quand même. Je ne sais pas si vous réalisez, mais combien tout ça, ça a duré des heures, en pleine nuit. Hein. Et là, quand ils l'ont conduit devant Pilate, c'est pareil, les sacrificateurs l'ont accompagné pour l'accuser. Ils n'ont pas trouvé, bien sûr, d'accusation valable, mais ils ont tout fait pour que l'accusation le fasse mourir. Dans 2 Corinthiens, ne le cherchez pas, au chapitre 5, au verset 21, il est dit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors c'est vrai que Pilate, lui, il a été embarrassé parce que sa femme lui a fait parvenir un message comme quoi il ne fallait pas qu'elle ait d'histoire avec lui. Mais enfin bon, il l'a envoyé à Hérode, il l'a envoyé au roi. Hein. Vous avez vu tous les kilomètres, parce que si vous regardez sur une carte, tous les kilomètres qu'on lui a fait faire dans cette souffrance, toute cette nuit, il a fait plusieurs kilomètres, je ne sais pas exactement, mais chargé, fatigué, blessé, il a fait plusieurs kilomètres à marcher en pleine nuit de l'un à l'autre, voyez, et là chez Hérode, ça s'est vraiment compliqué. Au niveau de la moquerie, ça s'est aggravé, vous savez qu'ils lui ont mis sur lui un habit éclatant, vous savez ces fameuses capes des officiers, les officiers romains, les officiers supérieurs, les centeniers, tout ça, ils avaient une cape rouge, vous savez, et on s'est moqué de lui, ils ont fait une couronne d'épines. Ils l'ont mis sur sa tête, ils ont tapé sur sa tête, une fois qu'on lui avait mis cette couronne d'épines. Vous savez, ce sont des choses, il faut y repenser. Et commencer une année en repensant à tout ce que Jésus a subi, rien que physiquement, je ne parle pas intérieurement, rien que physiquement au bois du calvaire, ça peut nous permettre de réfléchir afin que nous ayons une véritable piété. N'oublions pas le sujet, l'introduction, les noces de l'agneau. Nous ne participerons pas aux noces de l'agneau si nous méprisons l'agneau, si nous faisons n'importe quoi avec le Seigneur Jésus. Oui, là, bon, Pilate va tout faire pour essayer de le libérer, mais en fin de compte, il va le faire battre de verge. Et vous savez, nous, vous avez vu des films, on avait des petits fouets là, vous savez, des martinets. Moi, j'ai vu un film où Jésus, il est frappé avec un petit martinet là. Mais c'est de la rigolade. Les fouets que les bourreaux utilisaient pour frapper les condamnés, c'était des longues lanières. Il y avait plusieurs lanières, je ne sais pas combien il y en avait, s'il y en avait 5 ou 6. Il y avait plusieurs lanières, chacune était enchâssée d'os, de fer, de morceaux de pierre et tout ça. Et à chaque coup, ça enroulait le corps de l'homme. On mettait même une espèce de jugulaire, là, tout le tour du cou, si vous avez lu des récits sur les crucifixions, parce que si une de ces lanières touchait la carotide, le gars, il mourait. C'est pas 39 petits coups de fouet. On a labouré son dos. Et à chaque coup, des morceaux de peau, de chair. Moi, j'ai lu des textes où les gens étaient étripés par la flagellation. Ils mouraient en étant flagellés, pour vous dire un petit peu. Ils n'avaient pas le temps d'aller à la croix. Ils mouraient avec ces 39 coups de fouet. C'est pour ça qu'il n'en fallait pas un de plus, parce que justement, certains pouvaient mourir. Mais il y en a qui s'acharnaient tellement. L'homme est tellement méchant. Tellement méchant. Vous voyez ? Et c'est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un est-il malade ce matin ? Est-ce que vous croyez qu'avec tout ce que Jésus a subi au calvaire, vous ne croyez pas que quelqu'un peut être guéri ce matin ? Par la foi, est-ce que vous le croyez, frères et sœurs ? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce matin, vous pouvez prendre le pain et le vin en réalisant que oui, ce petit peu de vin, j'ai presque envie d'en mettre un sur la chair, tellement ça me démange, de ce que ça nous rappelle que le sang de Jésus a coulé pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Je le répète, il a vraiment souffert. On s'est moqué de lui, on l'a injurié. Il a subi la honte, il a subi la honte. C'est écrit, c'est quelque chose de terrible. Hein? Et je rappelle, les anges dans l'invisible étaient toujours disponibles, ils n'étaient pas repartis au ciel, ils étaient tous là, attendant que le Dieu du ciel et de la terre incarné donne un seul ordre pour retrouver sa divinité. Il ne l'a pas fait parce qu'il vous aime. Nous, des fois, on a une petite contrariété. Il y a des gens qui rétrogradent pour une contrariété. C'est pas vrai ? Il y a des gens, il m'a dit ça, je ne comprends pas. Pour un chrétien, pour un pasteur, je n'en reviens pas. Heureusement que Jésus a fait autrement. Croyez-moi, lui, il a été lié par des cordes. Malmené comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Comme un animal, attaché, dépouillé, le cuir chevelu ensanglanté, le dos labouré. Imaginez-vous quand on l'a jeté par terre au Golgotha, tous ces cailloux qui ont dû rentrer dans sa chair. C'est obligé. Il n'y avait pas de la moquette, je vous le dis. Il n'y avait que des cailloux. Vous avez été au calvaire et vous savez comment est le sol du calvaire. C'est que des cailloux. Pourquoi il l'a fait? Mes frères et sœurs, parce qu'il nous aime. Et il ne faut pas que nous nous habituions. Beaucoup de gens s'habitueront à ces choses, n'y feront plus qu'un. Vous savez qu'il est parlé de ces textes dans la Bible, ou dans la fin des temps. Ils recrucifieront à nouveau le Sauveur. Pourquoi ? Parce que quand on méprise la croix, c'est comme si on recommençait presque à le crucifier. Et je crois que nous devons avoir énormément de respect. Dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on doit être sérieux avec la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils l'ont vêtu de pourpre, vous voyez, quand ils se moquaient de lui. Vous savez, quand ils ont posé la couronne d'épines, hein, ils ont dit « Salut, roi des Juifs ». Ils ont couvert la tête, ils l'ont tapé dessus, et ils prophétisent « Dis-nous qui t'a frappé ». Je ne sais pas, j'aurais aimé savoir la tête des anges, je vous assure. Je suis sérieux. Parce que c'était lui qui les avait créés. Est-ce que tout a été créé par lui ? Est-ce que tous les anges ont été créés par Jésus ? Et ces anges, est-ce qu'ils aiment Dieu, ces anges ? Et je pense qu'il devait également, je ne sais pas, souffrir, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? De voir ce qu'on imposait à leur créateur, parce que c'était toujours leur créateur. Et nous serions insensibles devant la crucifixion du Seigneur Jésus. J'ai presque envie de dire, tout ce que j'ai dit, c'est rien. Parce que quand même, quand on l'a crucifié, on l'a chanté quand j'ai vu ses mains. Vous vous rendez compte, ses mains, on a chanté quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades. Ces mains qui sont posées sur la main de s'appelle la belle-mère de Pierre, sur le lépreux. Ces mains, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces mains ? Du bien. Ses pieds, où ils allaient partout faire du bien. Excusez-moi. Franchement, comment on pourrait être indifférent à ces choses, frères et sœurs? Comment pourrions-nous nous habituer, même si 2000 ans ont passé? C'est comme si ça s'était passé avant-hier, vous le savez. Comment pourrions-nous être indifférents devant les blessures de Jésus? Vous vous rendez compte, il n'a rien dit. Si, il a dit une chose quand on l'a crucifié. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Nous, quelqu'un va nous marcher sur les pieds, ça va. Lui, on l'a crucifié. Et la première parole qu'il a prononcée sur la croix, c'est pardonne-leur. Car ils ne savaient pas ce qu'il faut. Je comprends pourquoi les soldats, je comprends pourquoi le centenier a dit certainement, cet homme était le juste, le fils de Dieu. Mais je comprends. Les crucifiés, lorsqu'on les crucifiait, on leur arrachait souvent la langue à cause des injures qu'ils prononçaient. Un soldat montait avec une échelle sur la croix, il leur arrachait la langue pour qu'ils arrêtent d'insulter leur bourreau. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ses mains percées, ses pieds percés, son front percé, son dos lacéré, ses grumeaux de sang. Chaque fois que vous prendrez le vin, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous-en d'une manière sérieuse, d'une manière solennelle. C'est à cause de ça qu'on ira aux noces de l'agneau. Est-ce que vous le savez? L'éternité entière, on sera béni, on sera heureux à cause du sang de l'agneau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous partage? Au-delà de l'émotion, tout ça. Avant de le crucifier, ils lui ont donné un breuvage, vous savez, du vin avec de la myrrhe. Avant de le crucifier, juste avant. Pourquoi? Parce que quand même, il y en avait certains qui avaient un petit peu de pitié pour pas qu'il souffre. Il l'a refusé. Moi, je l'aurais pris, je vous le dis, je l'aurais pris. Il a refusé pour être jusqu'au bout conscient, pour qu'il puisse faire son œuvre jusqu'au bout. Et après, ils l'ont crucifié. Et pourtant, il a refusé. Son sang a coulé. Vous savez que quand il est mort, quand le soldat lui a percé le côté, qu'est-ce qui est sorti de son côté? Du sang et de l'eau. Et je vous assure, une fois que je méditais sur ce texte, le Seigneur m'a montré que s'il est sorti de l'eau, c'est qu'il n'y avait plus de sang. Il avait donné tout son sang. Tout son sang. Il n'a pas donné quelques gouttes, il a donné tout son sang. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui croit ne sera pas jugé. Mais celui qui refuse de croire ces choses, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est écrit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, oui. Et que personne ne s'imagine, comme on l'entend des fois dans d'autres églises, je vous le dis parce qu'il faut le dire, que la mort de Jésus-Christ, c'est il a souffert pour donner un exemple à l'humanité. Je suis désolé. Bien sûr que Jésus est un exemple, n'en parlons pas. Jésus n'a pas souffert sur la croix pour donner un exemple à l'humanité. Jésus est mort sur la croix pour sauver les hommes de la perdition éternelle. D'ailleurs, il a dit, ceci est mon sang qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de vos péchés. C'est écrit dans 1 Pierre 3,18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés du juste et des injustes afin de nous amener à Dieu. Est-ce que vous êtes avec Dieu? Est-ce que vous avez cette assurance? Oui, je suis avec Dieu. Si dans la rue je me fais écraser par une voiture, je sais où je vais. Si je meurs demain ou si je meurs après-demain, oui, ça sera comme ça, mais je sais que je participerai aux noces de l'agneau. Vous savez, ça aurait valu la peine de rajouter dans la foulée toutes les souffrances de son âme. Mais croyez-moi que quand ses disciples l'ont abandonné, ce n'était pas déjà une souffrance de plus, hein? Quand ils l'ont vendu 30 pièces d'argent, le prix d'une esclave? Femme. Voyez jusqu'où ils ont poussé l'humiliation, ils l'ont acheté pour le prix d'une femme. Bon, aujourd'hui, on aurait tous le même prix, ne vous inquiétez pas. Mais ils l'ont acheté quand même pour le prix d'une esclave femme, pour pousser l'ironie jusqu'à ce point-là. Combien Satan a dû se régaler à ce moment-là quand il a poussé ses hordes. Vous savez, si tu es le fils de Dieu, descends. Hein. En plus, le Père l'a abandonné. Et je termine avec cette pensée. Vous savez, sur la croix, Jésus appelait toujours mon Père, Dieu son Père. Mais sur la croix, il appelait Dieu mon Dieu. Et si Dieu, écoutez bien, vous qui n'êtes pas baptisé encore, vous qui écouterez cette prédication, écoutez bien. Si Dieu a abandonné son propre Fils sur la croix lorsqu'il portait le péché du monde, c'est ce qui vous attend si vous n'acceptez pas le sang de Jésus-Christ. Si Jésus a abandonné son propre Fils parce qu'il était en train de porter le péché du monde, si vous ne vous repentez pas et si vous ne vous convertissez pas et si vous n'acceptez pas le sang de Jésus comme seul moyen d'être sauvé, Dieu vous abandonnera et vous irez en enfer. Alors venez, ou revenez, ou approchons-nous un peu plus, mais venez tels que nous sommes. Quand j'en lis la Bible, on voit que Dieu veut que nous nous approchions de lui. Il est vivant, il nous attend, il y a un programme. Vous avez lu l'Apocalypse pour les chrétiens ? S'il y a un programme pour ceux qui n'en veulent pas, je peux vous dire qu'il y en a un autre pour ceux qui veulent de lui. Alors, si vous oubliez le prix du foie gras, comment on appelle ? Si vous oubliez le prix du caviar, c'est pas grave, mais n'oubliez jamais Gethsémané. N'oubliez jamais la croix. Si vous oubliez le prénom d'une personne, si vous oubliez une prédication, c'est pas grave. Si vous oubliez, je sais pas, si vous oubliez vos papiers ailleurs, quelque part, c'est pas grave. Mais n'oubliez jamais le sang de Jésus-Christ. Alors, ça vous donne pas envie de le servir? On n'a pas envie de le servir cette année 2012? Est-ce qu'il est digne qu'on le serve? Est-ce qu'il est digne qu'on le serve? Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants? Mes frères et sœurs, je m'adresse aux chrétiens, soyez remplis de reconnaissance. Je vais demander à Monsieur de Dieu Olivier, s'il vous plaît, de choisir quelques frères. Restons quelques instants dans le recueillement, dans la reconnaissance, dans l'adoration. Mes frères et sœurs, cette prédication, j'aurais pu la continuer avec les souffrances de son âme. Il a souffert dans son âme plus que dans son corps. Retenez bien cela. Il a plus souffert spirituellement, intérieurement, on dirait aujourd'hui psychiquement, que physiquement. Pourquoi ? Parce qu'il vous veut dans le ciel. Vous savez que lorsque Dieu a créé les hommes, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ça a dû être une grande bénédiction. Bon, il faut le faire, c'est sûr qu'il faut le faire, créer un homme. Mais Dieu n'a pas souffert pour créer un homme. Il n'a pas souffert. Il a manifesté sa puissance pour créer Adam et Ève. Mais pour que les hommes puissent naître de nouveau, il a souffert la croix. Et vous savez, c'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Mais c'est Jésus qui a dû mourir pour que nous soyons recréés de nouveau. À sa nature. Mes frères et sœurs, j'ai voulu vous parler du sacrifice de Jésus pour cette première prédication de l'année. C'était pour moi la meilleure façon d'honorer le Seigneur. Et je voudrais que les chrétiens, nous soyons remplis de reconnaissance. Attachés à Dieu, attachés à lui, vraiment comme deux morceaux de fer sont soudés ensemble. Et que vous, les pécheurs parmi nous, vous qui n'êtes pas encore baptisés, c'est pas une plaisanterie. La crucifixion, votre salut éternel, c'est pas une plaisanterie. C'est sérieux. La mort de Jésus nous prouve que c'est sérieux. Il fallait qu'il meure. Et son sang, ce matin, peut purifier. Je pense aux ados qui sont parmi nous. Êtes-vous sérieux avec la croix? C'est le sang de Jésus qui vous purifiera. Ce n'est pas vos œuvres, votre religion, vos parents chrétiens. Non, il n'y a que le sang de Jésus qui peut purifier le pécheur. Mes frères et sœurs, vous qui êtes baptisés, levez-vous à votre place. Nous commençons cette année par un culte. C'est formidable. Moi, je trouve que c'est formidable. D'être présent dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'être là pour le 1er janvier? Vous préféreriez être au lit? On est bien dans la maison du Seigneur. Alors, honorons-le, glorifions-le. Et vous qui restez assis parce que vous n'êtes pas encore convertis, repentez-vous. Convertissez-vous maintenant. Dites-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je te donne ma vie, je n'avais pas réalisé ce que tu avais souffert physiquement, pour que je puisse être pardonné. Notre Père, merci. Tu sais la valeur de ce mot lorsque nous pensons à toi, Seigneur. Tu sais la façon dont nous le prononçons lorsque nous pensons à ton œuvre au calvaire. Seigneur Jésus, nous nous sommes prosternés devant toi. Nous te remercions d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir été jusqu'au calvaire, d'avoir tout accompli pour que bientôt, très bientôt certainement, nous participions aux noces de l'agneau. Merci pour ce programme, Seigneur. Merci pour ce jour où, revêtus de fin lin, glorifiés à ton image, nous serons avec toi. Pour cet immense repas, Seigneur, merci de nous avoir révélé un tant soit peu le programme qui est devant nous. Mon Dieu, combien nous le chérissons dans notre cœur et nous voulons nous préparer. Vraiment, tu as dit que ton épouse se préparait, alors tiens-nous prêts, Seigneur, pour ce jour où tu viendras prendre tous les rachetés couverts par ton sang. Que le nom du Seigneur soit béni.